Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Faut-il tout balancer, se demande l'Obs cette semaine en une. L'hebdomadaire consacre son principal dossier au danger du tribunal médiatique. Quatre personnalités illustrent cette thématique, on suppose qu'elles en sont victimes. Gérald Darmanin, Nicolas Hulot, Ménel Ibtissem et Jérém Star. Alors un tel voisinage peut surprendre dans la mesure où les affaires qui les concernent n'appartiennent pas toutes au même registre. Dans un cas, celui de la jeune chanteuse, il s'agit de textes publiés sur les réseaux sociaux il y a quelques années et dont l'existence n'est pas remise en cause. Dans les autres, ce sont des actes qui appartiennent eux aussi au passé, à la différence près que ceux qui sont soupçonnés de les avoir commis les contestent. Alors là où le lien peut être fait, c'est à la fois du fait de l'emballement médiatique, pour reprendre une expression à la mode, qui a contribué à en faire des affaires justement, mais aussi parce que c'est la logique de la transparence, voire du dévoilement qui est ici à l'œuvre. Le passé est exhumé, livré de manière brute, sans nuance, sans laisser une chance à ceux qui en font l'objet d'être innocentés, quand bien même ils seraient innocents. Alors Ménel, Orelsan, Hulot, qui a le droit à l'oubli ? Eh bien c'est la discussion que nous allons mener ce soir. J'ai ajouté Orelsan, même s'il n'est pas en une de l'Obs. On verra si on a l'occasion d'évoquer ce cas. Il y en a un certain nombre qui émergent ces derniers temps. Et nous allons le faire en compagnie de deux des membres réguliers de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes enseignante à Sciences Po. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées, c'est sur France Culture. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, à 11h53. Et puis deux invités pour compléter ce plateau. Nassira El-Mouadem, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous dirigez le Bondy Blog. Et Daniel Schneiderman, bonsoir.
Bonsoir.
Qui lui dirige le site Arrêt sur Image, qui est par ailleurs chroniqueur à Libération. Alors, dans le cadre justement de vos activités, Daniel Schneiderman, vous observez tous les jours ce qu'est le bruit médiatique. Est-ce que vous avez été surpris par le bruit, le boucan, même le vacarme qu'a été celui, et qui est toujours celui d'ailleurs, autour de cette jeune chanteuse. Donc je rappelle, hein, elle participe à The Voice, elle interprète une version du Alléluia de Leonard Cohen. Elle séduit le jury, mais il se trouve qu'il y a des internautes qui vont fouiller dans ses anciens tweets et dans ses anciens posts sur Facebook et qui retrouvent des propos dans lesquels elle s'étonne au moment des attentats de Nice qu'on retrouve systématiquement les papiers des terroristes. Et puis, lors de la tuerie de Saint-Étienne sur Rouvray, elle dit que pour elle, les terroristes, c'est l'État. C'est l'État avant tout. Et donc, ça a fait énormément de bruit. Elle a préféré se retirer de cette émission avant qu'on lui demande de le faire. Et donc, depuis, on parle énormément de ça. Donc, ma question, c'était, est-ce que vous avez été surpris par le bruit de tout ça, autour de cette affaire ?
Vous savez, quand on est journaliste, il faut essayer d'être surpris par pas grand-chose. Si on veut essayer de garder la tête froide. Je pense qu'on ne peut pas mettre dans le même sac toutes les affaires dont vous avez parlé en lançant l'émission.
C'est bien pour ça que j'ai pris quelques précautions, hein, en disant que ce n'est pas le même registre.
Et non seulement ce n'est pas le même registre, mais je pense même que c'est très différent. Si on se place du point de vue du dévoilement, d'écrits ou d'actions anciennes, dans le cas de Ménel, ce sont des internautes. C'est des tweetos qui vont rechercher ces tweets, voilà. Dans le cas de Hulot ou Darmanin, ça n'a rien à voir. C'est des journalistes qui font un travail de journaliste et qui font des enquêtes de journalistes. Donc déjà, je pense qu'on ne peut pas du tout mettre toutes ces affaires-là dans le même sac et en faire la même analyse.
Du coup, ça fait une de l'Obs problématique en mettant ces différentes affaires.
Oui, mais je pense que la une de l'Obs, c'est absolument n'importe quoi. Je veux dire, ce sont des affaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, on peut toujours essayer de les rassembler si on veut faire une émission sympa ou si on veut faire une...
Voilà, ce qu'on essaie de faire ce soir.
Ce qu'on va essayer de faire ou si on veut faire une qui attire le public. Alors, dans le cas de Ménel, comment j'ai réagi ? D'abord, moi, j'ai été horrifié, si vous voulez, personnellement, par la chasse à la femme dont elle a été la cible sur Twitter. Je veux dire, d'abord parce que j'ai trouvé qu'elle a fait une... vous me direz, c'est hors sujet, ça n'a rien à voir, mais quand même, j'ai trouvé qu'elle a fait une très belle prestation à The Voice. J'adore cette chanson, j'ai adoré sa manière de la chanter.
Oui, parce que si elle avait chanté mal, ça aurait été plus acceptable.
Voilà, mais je vous donne ma réaction... ma réaction personnelle. Et alors voir que dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, il y a toute espèce de mini meute qui s'est placée sur ses trousses pour essayer d'exhumer trois ou quatre pauvres tweets complotoïdes qu'elle avait fait il y a 2 ans. D'ailleurs, personne n'a vraiment fait l'enquête de savoir si quand elle avait fait ses tweets et ses statuts Facebook, ses posts, ses comptes étaient privés, c'est-à-dire réservés à ses seuls amis, ou s'ils étaient publics, ce qui déjà n'est pas la même chose. Quand vous écrivez quelque chose sur Twitter ou sur Facebook et que votre compte est fermé, c'est-à-dire que on est obligé de s'inscrire pour avoir accès à votre compte, c'est pas du tout la parole n'a pas du tout le même statut que quand vos comptes sont ouverts, où là vous êtes clairement dans l'espace public. Cela dit, c'est la règle du jeu. Je veux dire, si des tweetos, moi ça m'a horrifié, mais si des tweetos ont envie d'aller rechercher des choses qu'elle a écrites et de les retweeter, je vois pas ce qu'on peut y faire. Je veux dire, c'est la règle du jeu maintenant des réseaux sociaux et d'Internet.
C'est la règle du jeu et il faut s'y résoudre. Nassir El-Bouadem.
Oui, je voudrais juste prolonger ce que vient de dire Daniel Schneiderman. Moi, je suis absolument d'accord sur le fait qu'on ne peut absolument pas mettre ces mêmes personnalités, si tant est qu'on puisse parler de Menel de personnalité, puisqu'après tout, avant ce télécrochet, personne ne la connaissait, hormis les youtubeurs et toutes celles et ceux qui la suivaient sur les réseaux sociaux, parce qu'elle faisait déjà des chansons sur les réseaux sociaux.
Moi, mais c'est bien justement parce qu'elle passe à la télé, dans une émission grand public, que ça devient quelque chose de beaucoup plus visible.
Évidemment, et c'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Mais moi, ce qui me dérange, c'est effectivement ce côté, on met ces mêmes personnes au même plan, alors qu'on parle quand même, pardonnez-moi, mais de Nicolas Hulot, qui était quelqu'un qui devait peut-être, si on en croit les bruits des journalistes politiques, qui en tout cas réfléchissaient ou à qui on prêtait des attentions pour être candidat à la présidentielle. On parle de Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui dans un ministère de Bercy, donc un des premiers portefeuilles du gouvernement. Donc
l'affaire a été classée sans suite, on l'a appris cet après-midi, c'est le parquet.
Une des affaires, effectivement, de viol, mais il reste aujourd'hui une enquête préliminaire sur les accusations d'abus de faiblesse. Donc voilà, ça me dérange profondément et on prête surtout des intentions à cette jeune fille qui ne voulait être que seulement une chanteuse. Pardon, c'était un télécrochet. On ne parle pas d'une personnalité qui avait des vocations et des prétentions à être femme politique ou à être militante associative à la télé. Pas du tout. Alors, c'est profondément dérangeant, ça.
Juste pour préciser, peut-être, la proximité entre cette affaire Menel Ibtissem et puis l'affaire Nicolas Hulot, qu'il ne s'agit évidemment pas de comparer, mais c'est plutôt l'idée de réfléchir à quel doit être le curseur quand on va exhumer des affaires qui appartiennent au passé. Est-ce que, justement, c'est la gravité de propos, la gravité d'actes ? Est-ce que c'est la seule justice qui doit en décider ? Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a peut-être englober de manière un petit peu rapide ces deux affaires, mais pour rester peut-être sur l'affaire Menel Ibtissem de cette jeune chanteuse, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Anastasia Colosimo, est-ce que vous avez été horrifiée par les réactions ou peut-être d'abord par les propos qu'elle avait tenus sur les réseaux sociaux il y a quelques années de ça?
Non, mais je trouve ça un peu étrange de ne pas commencer par là. D'abord de dire que c'est quand même étonnant ces propos et que c'est effectivement choquant et que quand on a vécu les attentats qu'on a vécu, c'est toujours un peu difficile de se dire, et parce qu'on imagine aussi très bien que c'est des choses qu'elle a entendues, qu'elle le répète aussi sans doute parce qu'il y a un terreau pour ce genre d'idées. De toute façon, le complotisme parmi les jeunes, c'est pas du tout. On sait que c'est un problème. Vous savez, il y a eu un rapport récent de la Fondation Jean Jaurès. Qui peut être contesté sur un. Mais bon, qui en même temps montre que ça existe dans la jeunesse et c'est toujours effectivement extrêmement blessant et choquant de voir ça.
Oui, ensuite, mais justement, ça existe de manière assez large. Pourquoi est-ce que c'est sur elle que ça tombe ? Est-ce que c'est parce qu'elle est devenue un personnage public ?
C'est évident que si vous restez chez vous et que personne ne vous connaît, c'est pas la même chose que si vous passez sur TF1 à heure de grande écoute, qu'en plus vous êtes belle à mourir, que vous chantez divinement bien, et que vous portez un voile et que vous chantez une partie de la chanson de Leonard Cohen en arabe, alors même que c'est extrêmement symbolique par rapport à la chanson elle-même qui reprend le cantique de cantique, etc. Il est évident qu'il y a tous les il y a tous les éléments pour créer un scandale, quoi. Il y a tous les éléments pour aujourd'hui créer un scandale dans la situation dans laquelle on se trouve.
Oui, parce que je ne sais pas si on l'avait précisé au début, mais elle porte un voile, enfin un foulard sur la tête. Elle est musulmane et ça ajoute sans doute à l'hystérie qui a pu suivre derrière.
En fait, il n'y a pas... Je pense pense que ça ajoute au fait qu'effectivement, comme elle tient des propos complotistes et qu'elle tient des propos complotistes qui sont rapprochés aussi d'une certaine immigration, bah évidemment, tout ça prend de l'ampleur. Ensuite, je pense qu'il faut faire très attention sur le fait que, et là, je serais entièrement d'accord pour dire, elle est pas candidate à la présidentielle, elle a aucune fonction publique, elle a juste vocation à chanter, et cette différenciation n'a pas été faite, elle a effectivement été lynchée, elle a été vraiment contrainte de partir, parce que c'était pas, je pense que même TF1 a dû lui dire, écoutez, le mieux c'est sans doute que vous partiez, parce que tout ça devient trop compliqué.
On imagine que ça les arrangeait en tout cas, qu'elle
décide exactement.
De le faire.
Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a une hystérie qui a gagné un peu l'opinion publique, et qui n'est pas normale.
Brice Couturier.
Oui, même analyse, il n'y a absolument aucun rapport entre une rumeur, une simple rumeur qui menace deux ministres d'un gouvernement qui est étrangement populaire et donc ça a pu énerver beaucoup de ceux qui croyaient qu'on pouvait mobiliser 1 million de personnes pour marcher sur l'Elysée, donc ils ont trouvé autre chose. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est effectivement des rumeurs et des calomnies.
C'est je ne suis une pas sûr rumeur. Que vous partagez la même analyse.
C'est possible, est-ce que je peux partager la mienne jusqu'au bout? Est-ce que je peux partager simplement la mienne jusqu'au bout?
Bien, merci de me donner la parole. Partagez la vôtre alors dans ce
alors,
cas.
Oui, c'est pour ça que je suis là. Bon, merci de me laisser parler. Donc, simplement, le canard enchaîné de mercredi écrit sur ces rumeurs concernant Nicolas Hulot. La seconde partie du scoop échappe également à quelques standards du journalisme. Hebdo révèle une plainte pour viol, une plainte d'un genre nouveau classé sans suite, dont on ne connaît pas le contenu, dont on ne sait rien, hormis la date, et que l'Hebdo reconnaît après coup n'avoir jamais eu en main. Espérons qu'Hebdo, que les faits seront mieux étayés que les précédents. C'est pour la première, donc moi aussi je peux vous accuser d'avoir tué ma grand-mère, vous savez. Après, il faut avoir quelques preuves aussi.
Mais il y a une plainte, Brice, une plainte déposée.
Mais moi, je peux déposer une plainte disant que Hervé Gardet a tué ma grand-mère.
Non,
mais
c'était juste pour revenir sur le mot rumeur que vous avez utilisé. Voilà. Pour moi, c'est pas
cela
une rumeur.
Alors, Brice Couturier, est-ce que vous voudriez bien vous partager peut-être aussi le déroulé de cette émission et d'abord réagir à ce cas
attendez,
de cette jeune chanteuse?
Vous avez laissé quelqu'un attaquer les ministres du gouvernement, donc j'ai le droit de les défendre.
Là,
Non, j'ai pas le droit. Je vais passer à la suite.
On y reviendra. Écoutez.
Quant à Darmanin,
vous participez quasiment tous les vendredis à cette émission. Vous connaissez
la règle. Quant à Darmanin, l'AFP vient de publier. L'enquête n'a pas permis d'établir l'absence de consentement de la plaignante et n'est pas caractérisée davantage l'existence d'une contrainte, d'une menace, d'une surprise ou d'une quelconque violence à son endroit. Donc voilà, j'ai répondu à madame qui disait qu'il y avait des graves accusations portées.
Et cette jeune femme, cette jeune chanteuse, est-ce qu'elle méritait les réactions qui ont suivi sa participation et l'exhumation de ses anciens tweets et de ses anciens posts sur Facebook?
Alors, moi, je suis très sensible à un article que Mark Wetzman a publié hier sur le site Slate, qui répond à un autre article d'Eskolovitch. Et Mark Wetzman, qui est donc le romancier bien connu, montre que le texte de la chanson Alléluia, par exemple, qu'elle a chanté, c'est dans une traduction en arabe. On a dit que c'était la traduction d'Alléluia. Hélas, ce n'est pas la traduction d'Alléluia. C'est une traduction, c'est une version qui a été écrite par un chanteur émirati qui s'appelle Muhammad Al-Hussein et qui l'a complètement réécrite pour en faire un nashid, c'est-à-dire un chant religieux. Donc cette chanson qui avait pour thème le roi David et l'amour charnel est devenue une chanson sur le péché, le repentir et la soumission à Dieu, ce qui n'a rien à voir.
Vous pouvez en citer les paroles?
Je les ai sous les yeux, ça tombe bien. Oui. Alors ça donne « J'ai péché et je suis prisonnier de ma douleur, restreins mon péché Seigneur, réduis ma peine, ô mon Dieu, pardonne-moi, je suis criminel, j'ai transgressé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, toi qui m'as créé. » Voilà les paroles.
Et alors,
ça
n'a
pas grand-chose à voir avec les paroles de Cohen.
En quoi ça justifierait...
C'est tout aussi incompréhensible que les paroles de Cohen. Les paroles originales de Cohen sont absolument incompréhensibles. C'est une magnifique poésie qui mêle le sexe et la religion.
Il n'y a absolument rien de problématique dans les paroles que vous avez dénoncées.
Je dis simplement qu'il ne s'agit pas des mêmes paroles.
S'il vous voulez bien, Brice Couturier, juste après on va repasser la parole à nos autres intervenants, mais je ne comprends pas, c'est-à-dire, quand bien même ça serait une traduction qui ne serait pas fidèle au texte original, en quoi cette traduction-là serait suffisamment problématique pour justifier...
Parce qu'il s'agit d'un chant religieux, Hervé Gardet, il s'agit d'un seul coup d'un chant religieux.
Alléluia.
Il y a un appel au meurtre là, dans ce que vous...
Mais j'ai jamais... Pourquoi j'ai dit qu'il y avait un appel au meurtre?
Si vous me prêtez de pareils propos...
Ça a l'air d'être problématique. Donc paroles que
simplement,
vous
les gens qui ont assisté à ce show n'ont pas cru. Vous comprenez? Parce qu'on nous a vendu l'idée qu'elle avait accepté un chant juif écrit par Leonard Cohen et que donc elle avait fait sien. Non, elle ne l'a pas fait sien. Elle l'a profondément métamorphosé dans son sens.
Vous savez combien il y a de versions du Alléluia?
Dessus de Leonard Cohen, il y en a qu'une. Voyez-vous, j'ai les paroles et il y en a qu'une écrite par Leonard Cohen.
En tout, il y en a plus de 10, si vous voulez. Tout le monde s'est approprié cette chanson et l'a réécrite à sa sauce.
En fait, ce qui est profondément intéressant, je trouve, là.
Il y a de la religion, c'est une musulmane. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va, on va dire, un effet amplificateur par rapport
Moi, je crois profondément que le fait qu'elle porte ce turban qu'elle a sur la tête, ce n'est pas un voile, ce n'est pas un voile qui recouvre son visage, c'est un turban, un foulard. Le fait qu'elle s'appelle Menel, le fait qu'elle prononce des mots en arabe dont vous n'aviez aucune connaissance finalement, avant que vous fassiez votre recherche, vous ne le saviez pas avant, maintenant vous le savez, mais...
L'essentiel, c'est de le savoir et de le faire savoir, non?
Non, mais tous les millions de téléspectateurs qui ont regardé ce télécrochet ce soir-là n'étaient pas offusqués, et même aujourd'hui, en écoutant ce que vous me dites, je ne suis pas du tout offusquée, il n'y a absolument rien qui puisse justifier le lynchage dont elle a été victime. Je ferme la parenthèse. Mais le fait qu'elle était voilée, le fait qu'elle soit ménelle, le fait qu'elle soit arabe, le fait qu'elle parle en arabe, pour moi, est... explique ce qui s'est passé. Je veux dire,
Il y a les tweets aussi quand même.
Non mais je prolonge.
Il faut pas juste.
Absolument. Et c'était pas des tweets juste pour précision, c'était des posts Facebook, mais juste par rapport à la véracité des faits. Ce qui se passe, c'est que des personnalités publiques qui ont des propos complotistes à la télévision, dans la presse écrite, il y en a régulièrement.
On se souvient Marion Cotillard, Mathieu Kassovitz.
Et d'ailleurs, Marion Cotillard.
Jean-Marie Bigard.
Le mouvement Balance ton porc a pour objectif de noyer le poisson de l'islam. Ces propos sont signés Alain Finkielkraut, qui est membre de l'Académie française.
Et producteur à France Culture.
Absolument. Il n'y a pas plus complotiste que ce genre de propos. Il est membre de l'Académie française, ce monsieur. Et des propos comme cela, je peux en donner des dizaines et des dizaines. Sauf qu'elle s'appelle Menel, qu'elle est ce qu'elle est, et qu'on a été déterré des vieux posts Facebook, et on ne l'a pas fait, par ailleurs, pour d'autres candidats. Je ne suis pas sûre que toutes celles et ceux qui ont appelé au lynchage de cette jeune fille l'aient fait pour les dizaines d'autres candidats du télécrochet. Il est là, le problème.
Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures, Nassa Colosimo et ensuite Daniel Schneiderman.
Je pense qu'il ne faut pas non plus absolument tout mélanger. Justement, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans la paranoïa, c'est-à-dire que ces tweets, ils existent. Moi, je pense que c'est très grave qu'on soit allé les déterrer, je pense que c'est très grave qu'elle ait été lynchée pour ça. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord.
Pourquoi c'est grave d'aller les déterrer?
Ce que je trouve grave, c'est qu'on la fasse payer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je trouve que cette une de l'Obs, en fait, elle est pas assez absurde. La vraie question, c'est la question du temps. C'est la prescription. Et c'est une question qui relie toutes ces affaires-là. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, des choses du passé peuvent être oubliées et on peut passer à autre chose?
Sauf que la prescription, ça vaut pour quelque chose qui peut être illégal. Là, il n'y a rien d'illégal dans ce cas-là.
Mais oui, mais il n'y a pas seulement illégal.
Du point de vue de la justice,
non, mais il y a aussi les prescriptions morales. Donc, vous voyez, il y a les deux. Ça joue aussi. Pourquoi est-ce qu'on est dans une société ou des choses qui ont été écrites il y a 2 ans, tout d'un coup. Alors, pour revenir sur Menel, je dirais que c'est pas la seule affaire. Il y a eu Mehdi Meklat, quand même, il y a 1 an, qui a été une très très grosse affaire aussi. Il y a eu Ryan Nezar, qui lui est en marche, et d'ailleurs qui n'était pas du tout sur des choses complotistes, etc., qui n'avait rien à voir, c'était des insultes personnelles qui avaient traité, je crois, Alain Juppé de fiotte. Enfin, c'était des insultes personnelles qui touchaient des personnalités politiques. Donc, je pense que de manière générale, et c'est pour ça que la question se pose, peut-être que c'est un peu maladroit la manière dont l'Obs la pose, mais elle se pose réellement sur quel est le droit à l'oubli, à la fois juridique et en même temps moral aussi.
Daniel Schneiderman.
Moi, ce qui me gêne un tout petit peu depuis le début de cette discussion, c'est le « on ». Est-ce qu'on a le droit de, on a bien le droit de, on n'a pas le droit de, on devrait pas, etc. Mais ça n'existe pas, « on ». Je veux dire, dans toute cette...
Non,
dans
mais c'est un truc de fouille merde. C'est un truc de fouille merde d'aller chercher les tweets. Quoi.
On est sur TF1 ou on est sur France Culture?
Quel est le rapport?
Je peux finir une phrase éventuellement.
Moi, je suis jamais passé sur TF1, donc je ne sais pas.
Avant que vous m'interrompiez.
Alors, Daniel Schneiderman, on le laisse terminer.
Je ne sais pas comment on fait là-bas.
Ça y est, j'ai perdu le fil, vous voyez.
Vous disiez le « on ».
Oui, le « on ». Dans toute cette affaire, il y a des intervenants. Je veux dire, il faut savoir qui sont les... Il y a des locuteurs, comme on pourrait dire sur France Culture. Il faut savoir qui sont les locuteurs. Il y a des tweetos anonymes, il y a des journalistes, il y a le rédacteur en chef de l'Obs, voilà, il y a TF1, etc. Alors, est-ce qu'on a le droit? Moi, je pense que pour l'instant, dans le cadre des lois françaises, les tweetos ont le droit de tweeter ce qu'ils veulent, c'est-à-dire Menem avait le droit de tweeter ce qu'elle a tweeté, et les adversaires de Menem, la meute anti-Menem, a le droit d'aller rechercher ses tweets, pardonnez-moi, et de les faire remonter à la surface. Moi, je pense que dans cette affaire, ceux qui ont totalement manqué de courage, c'est la direction de TF1, excusez-moi. Je veux dire, la direction de TF1 aurait dû couvrir sa chanteuse, d'autant plus qu'elle s'est excusée, elle a dit voilà, je voulais pas du tout. Elle s'est excusée 2 fois. D'abord, une première fois, ça n'a pas suffi. Elle s'est excusée une deuxième fois. Elle a dit, protester de son amour de la France, etc. Un moment, c'était à la direction de TF1 de dire, ben voilà, on est dans un radio-crochet, comme disait Nassira, ben, si vous voulez bien, elle va continuer de chanter.
Voilà. Je suis entièrement d'accord, et en même temps, vous voyez, dans l'affaire de Ménel, effectivement, ce qu'elle dit n'est pas illégal, mais par exemple, dans l'affaire de Mehdi Mekhlat, les propos qu'il avait tenus parce que c'était des propos antisémites et racistes, là, ça tombait sous le coup de la loi. Donc, il y a quand même, c'est pas sans enjeu non plus, ces histoires d'expression comme ça, gratuites, qu'on peut avoir sur Internet, et je pense que là, il y a un effet générationnel, et je pense que d'ailleurs, la nouvelle génération sera beaucoup mieux préparée, c'est que toute notre génération est tombée au moment, en fait, de l'invention de Facebook, au moment de l'invention de Twitter, et effectivement, quand vous demandez, par exemple, est-ce que le profil était public ou privé, mais au début de Facebook, il y a 10 ans, mais même il y a encore 5 ans, on ne savait pas exactement ce qui était public, on ne savait pas exactement ce qui était privé. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont vraiment, réellement fait avoir là-dessus. Donc je pense qu'il y a une éducation à faire, mais qui va passer aussi par ce genre de scandale, parce que les gens se rendent compte maintenant qu'il n'y a pas d'impunité du tout en fait sur Internet et que rien n'est jamais vraiment privé. Ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes.
Vous évoquez le cas de Mehdi Mekhlat, vous aviez eu déjà l'occasion de vous exprimer là-dessus, Nassira El-Modem, parce que c'était un ancien chroniqueur du Bon du Blog. Je ne sais pas si vous avez envie de revenir là-dessus suite à l'intervention d'Anastasia Colosimo.
Non, mais je pense qu'il y a une vraie question. Et un vrai sujet autour du droit à l'erreur. Qui a droit à l'erreur ? À qui on donne le droit à l'erreur aujourd'hui ? Éric Zemmour, par exemple, dont on parle beaucoup. Éric Zemmour, pardonnez-moi, mais en octobre 2016, si mes souvenirs sont bons, dans Causeur, Éric Zemmour dit cette phrase « Je respecte des gens qui sont prêts à mourir, pour ce en quoi ils croient ». Il parlait des djihadistes, et c'était à la suite des événements de Nice. Et pardon, mais ces propos-là, je n'ai pas l'impression qu'on ait demandé la tête d'Éric Zemmour. Et je n'ai pas le souvenir que la direction de RTL, la direction du Figaro, puisqu'il travaille dans ces deux médias, ait demandé à Éric Zemmour de s'excuser, ou même ait poussé Éric Zemmour à la porte. Donc finalement, à qui donne-t-on le droit à l'erreur aujourd'hui ? Ménel est une jeune femme et je pense que c'est important de rappeler que c'est une fille, que c'est une jeune fille, que c'est une jeune femme parce qu'à l'époque, vous avez effectivement à juste titre rappelé ce qui s'est passé autour de Ryan Nézard, donc ce militant en marche. Moi, je me souviens d'avoir vu des tweets passer de personnes qui disaient « Oui, mais Ménel et Ryan Nézard, c'est pas la même chose. Ryan Nézard, il a pas été aussi loin. » Pardon, mais les propos d'Éric Zemmour, par exemple, qui sont des propos complotistes.
Mais il ne faut pas se fixer là-dessus. Éric Zemmour, par exemple, il a fait l'objet de procès quand même.
Pardonnez-moi, je veux juste terminer ma phrase, parce qu'il y a vraiment un raisonnement. Éric Zemmour, dont on a, à juste titre, je pense, critiqué les propos complotistes sur, par exemple, les djihadistes. Éric Zemmour, moi, j'ai appelé le tribunal de Paris hier, le parquet. Le parquet a classé cette affaire en disant que c'était une affaire. Classé sans suite en disant que les propos n'étaient pas circonstanciés. Et pourtant, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens à l'époque, s'étaient offusqués de ces propos. C'est juste pour rappeler qu'effectivement,
entre. Il a été condamné aussi parfois.
Pas pour ces propos-là. Pour d'autres, et il a fait appel aussi. Pas pour ces propos. C'est juste pour dire qu'il y a souvent un décalage entre l'exaltation, l'indignation numérique en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, et puis ensuite. Le droit, la justice, quand elle se prononce. Là, en l'occurrence, pour Éric Zemmour, elle s'est prononcée.
Éric Zemmour qui a soutenu Ménel, par ailleurs.
Et la justice a dit que cette affaire est classée sans suite parce que les faits ne sont pas circonstanciés. Et toutes celles et ceux qui criaient en disant que Ménel devait être traduit en justice, ces propos-là, je pense, n'étaient aussi pas, enfin, ne tombaient pas non plus sous le coup de la loi.
Brice Couturier, qu'est-ce que vous pensez de un certain nombre de notions qui ont été évoquées là, de ce droit à l'erreur qui serait à géométrie variable, et aussi de cette idée qu'à un moment donné, d'un point de vue au moins de la morale, si ce n'est d'un point de vue de la justice, il y aurait un droit à l'oubli qui devrait être mis en place. C'est ce que évoquait tout à l'heure Anastasia Colosimo.
Alors ce droit à l'oubli, de facto, il existe déjà en Europe grâce à la Cour européenne de justice. Il faut rappeler une affaire qui a fait jurisprudence parce qu'elle explique un peu ce fameux droit à l'oubli. En 1998, le journal espagnol La Vanguardia avait publié simplement une notice sur un avocat espagnol qui avait fait faillite et en avait vendu ses biens aux enchères. Et cette notice, il s'appelle Marco Castella González. Ce type s'est rétabli dans ses affaires, tout a été mieux bien pour lui, sauf que quand ses clients éventuels googlisaient son nom, ils tombaient sur la même notice de La Vanguardia qui disait que ses biens avaient été saisis et qu'il était failli. Et donc ce type a fait appel. En 2010, il s'est adressé aux tribunaux espagnols et l'Agence de protection des données espagnole a reconnu le tort qui avait été commis par Google et a exigé de Google qu'on retire. Et la Cour européenne de justice, qui était saisie de l'affaire en 2014, a rendu sa jurisprudence qui aujourd'hui fait autorité. Et il s'ensuit qu'effectivement, vous avez le droit, vous, d'exiger de Google qu'on retire quelque chose que vous, qui vous concerne, si c'est, je cite l'arrêt du tribunal, qui n'a pas d'intérêt, no longer relevant, en relation avec les buts pour lesquels ils ont été élaborés et à la lumière du temps qui a passé depuis. Donc vous voyez, ce droit à l'erreur, il est reconnu. Il faut comprendre qu'on est dans une logique un peu particulière en Europe où le droit à la privacy, à la vie privée, l'emporte sur le droit à la libre expression. Et c'est un problème que nous avons avec les Américains, parce que en vertu de leur premier amendement, le droit à la libre expression est absolument sacré et passe avant le droit à la vie privée. Donc Google, Facebook, qui sont le problème en l'occurrence, qui sont des sociétés américaines, qui sont en position de monopole, nous imposent une gestion des données, des data, qui est en contradiction totale avec notre conception européenne. Mais je voudrais juste un dernier mot sur l'affaire, parce que j'ai pas eu le temps. Tout à l'heure, je voulais citer Omar Youssef Souleyman, qui a fait un papier ce matin dans Le Point sur l'affaire Menel, et qui dit la même chose que moi. Il dit « La chanteuse Menel n'a rien d'autre fait que reprendre les anciennes diffusées à l'envi par les organisations islamistes de France. Et quant à la chanson Alléluia, il écrit « Menel a transformé la magnifique chanson de Leonard Cohen Alléluia qui invite à l'amour en une ritournelle en arabe pour son dieu, signé Omar Youssef Souleyman. » Vous voyez que je ne suis pas absolument le seul à dire ce que je dis.
Mais c'est incroyable parce qu'en réalité, finalement, le complotisme qu'on reproche à Menel, finalement, certains le prennent à leur compte. Pardon, Brice Couturier, mais...
Précisément, quand vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit et que vous croyez que c'est une chanson de Leonard Cohen traduite en arabe et que vous apercevez que ce n'est pas du tout une chanson traduite en arabe, vous voyez que ça pose problème. Et cet écrivain syrien, Omar Youssef Souleyman, pense comme moi.
J'ai pas été lire et j'irai le lire. Mais dire que parce qu'elle a chanté cette chanson Alléluia, qui est une chanson d'un chanteur canadien qui est connu comme étant un juif pratiquant, paix à son âme, il n'existe plus aujourd'hui, qu'elle a caché des paroles en arabe, cela voudrait dire qu'elle avait tout simplement un agenda caché d'islamistes, mais c'est purement de la folie, c'est de la folie.
C'est pourtant ce que dit cet écrivain syrien, lisez cet article, il pense qu'elle a un agenda caché, il connaît, je crois, assez bien l'affaire des frères musulmans parce que il a fui la Syrie pour d'autres raisons.
On parle d'une candidate à un télécrochet, Brice Couturier, mais
il y a des agendas. Il y a des agendas, nous avons chacun le nôtre et vous avez le vôtre.
Donc il y a un agenda caché de cette candidate qui serait de porter le projet islamiste en France, bon, ce qui paraît quand même assez étrange. Daniel Schneiderman, on a l'impression à travers cette discussion que ce qui est mis en cause avant tout, dans le fait que justement alors d'anciens propos soient exhumés aujourd'hui, vous dites à a priori, ça ne pose pas un problème en soi, mais que ce sont avant tout ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont responsables de ça. Or, si ça se passait uniquement sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez le fait que, Brice Couturier citait un article du Point, mais il y en a dans toute la presse aujourd'hui, il y en a même dans cette émission, c'est-à-dire pourquoi les médias aujourd'hui sortent à ce point friands de polémiques qui n'ont peut-être pas grand intérêt, mais qui, quand on les voit poindre sur les réseaux sociaux, deviennent des événements, et à partir du moment où on les traite journalistiquement, ça les amplifie encore davantage.
Parce qu'une bonne partie des journalistes français ou parisiens sont sur Twitter et s'informent sur Twitter et baignent, si vous voulez, dans le bain Twitter. C'est-à-dire que quand les réseaux sociaux sont apparus, une dizaine ou une quinzaine d'années, on a pu penser un certain temps, si vous voulez, je l'ai moi-même pensé au début, qu'ils allaient supplanter les médias classiques. C'est-à-dire que voilà, quand Internet est apparu de manière plus générale, si vous voulez, on s'est dit, il y a tellement plus de liberté d'expression, c'est tellement plus facile de produire du contenu sur Internet que dans les médias classiques, ça coûte tellement moins cher, c'est tellement plus riche, effectivement, avec les liens qui permettent de se référer aux documents de référence, etc. On a pu penser qu'ils allaient bouffer les médias classiques. Bon, on est aujourd'hui en 2018, ils n'ont pas du tout bouffé les médias classiques. En revanche,
ils ont peut-être vampirisé.
En revanche, ils sont devenus une espèce de lieu d'influence auquel s'abreuvent aujourd'hui les médias traditionnels. Moi, personnellement, Twitter aujourd'hui est devenu mon fil d'alerte. Enfin, je veux dire, c'est Twitter qui m'informe des événements du monde et qui me conduit à aller lire tel article, regarder telle émission, etc.
Mais comment est-ce que vous faites le tri entre ce qui mérite de devenir une information que vous allez traiter, par exemple, sur AR et sur image, et ce qui ne le mérite pas ? Est-ce que c'est l'ampleur que va prendre, par exemple, une polémique, ou bien est-ce que c'est la nature même de l'information ? C'est compliqué de faire le tri quand même.
Je dirais que c'est mon boulot de journaliste, justement, c'est de décider ça. Mon boulot de journaliste, c'est de décider ce que j'ai trouvé, ce dont j'ai entendu parler, ce dont j'ai été alerté sur les réseaux sociaux, et ce qui mérite ensuite d'arriver sur un média professionnel comme Arrêt sur Image. Et je pense qu'on peut dire la même chose pour tous les médias. Le boulot du journaliste aujourd'hui, c'est justement d'être une espèce de sas maintenant, de lieu de décontamination entre ce qui se promène sur les réseaux sociaux et ce qui va ensuite arriver dans les médias qui sont faits par des journalistes avec des cartes de presse. Voilà, c'est ça.
Sauf qu'on a parfois l'impression que c'est plutôt de la surcontamination que de la décontamination.
Oui, voilà. Hein. En fait, un sas. Alors, disons un sas pour rester neutre. Alors, ça consiste à la fois à trier, c'est-à-dire à dire, alors effectivement, Twitter en fait des louches là-dessus, mais moi, journaliste, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le traiter, je ne trouve pas ça intéressant. Ça, c'est une partie du boulot de journaliste. Et par rapport au sujet qu'on décide de traiter, ça consiste tout simplement à faire encore le travail, c'est-à-dire à vérifier, à mettre en perspective, à passer des de fil, à aller voir des gens et à transformer, si vous voulez, un truc un peu informe qui circule comme ça sur les réseaux sociaux en contenu journalistique, estampillé avec le tampon.
Nasser El-Mohadem.
Oui, puis juste pour prolonger ça sur effectivement, finalement, notre métier de journaliste, le manque de bol, pardon, mais c'est aussi le timing, c'est-à-dire The Voice est diffusé samedi soir dans les rédacs, il n'y a personne, le dimanche, il n'y a personne, et il faut bien alimenter les sites internet des médias. Et donc, effectivement, ce sont souvent ces émissions qui sont diffusés en prime time le week-end, qui font ensuite l'objet de petits papiers qui donc effectivement sont repris, etc., en permanence.
À quel moment vous, au Bondy Blog par exemple, vous réagissez à cette affaire-là ?
Nous, on ne réagit pas tout de suite parce qu'on ne veut pas participer à la meute, quoi. C'est-à-dire que, pardon, mais cette fille a été lynchée. Et moi, j'ai expliqué ça récemment à des journalistes que j'avais rencontrés. Nous, on fait beaucoup au Bondy Blog des interventions dans les établissements scolaires. On rencontre des jeunes, c'est exactement ce que vous disiez, Nassa, tout à l'heure. C'est ces jeunes-là qui, partout en France, j'ai entendu souvent les jeunes des quartiers. Pardon, non, franchement, ça c'est transterritorial.
Ah bien sûr, je suis d'accord.
C'est transterritorial dans tous les établissements scolaires. Vous avez effectivement soit ces tests complotistes, ou soit cette défiance envers les médias, ou en tout cas une méfiance, qui fait qu'effectivement vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui ont ce genre de propos. Donc moi je suis absolument pas, pardon.
En fait, on n'est pas choqués.
Je suis pas choquée. En fait,
enfin, je veux dire,
effectivement,
dans le sens,
que c'est détestable,
c'est assez
comme propos,
banal,
mais
malheureusement.
C'est assez banal venant d'une jeune fille de 20 ans, de 18 ans, de 15 ans. On l'entend extrêmement souvent. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Est-ce qu'on va clouer au pilori ? Est-ce qu'on va déscolariser des jeunes sous prétexte qu'ils ont utilisé des propos complotistes ? Enfin, c'est délirant. On va pas excommunier tous les adolescents, tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui tiennent sur des propos. Je pense qu'il y a un vrai travail sur la question de l'éducation aux médias, un vrai travail sur comment on fait en sorte que ces gamins, que ces jeunes puissent avoir confiance dans les médias. On leur apprend à lire la presse, c'est un peu ce qu'on fait au Bondy Blog, on leur apprend à comment on construit une information. Et il est là l'enjeu aujourd'hui. Moi, je crois que l'enjeu, il est là.
Alain, c'est Zach Colosimo.
Alors, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, s'il fallait renvoyer tous les jeunes qui ont des propos complotistes, je pense que nos collèges et nos lycées seraient bien vides. Et je pense que c'est vraiment un mal de notre époque, particulièrement, qui a un contexte international aussi à ça, et pas du tout seulement national. Donc, je dirais même pas que c'est seulement un problème français. Hein. Je dirais qu'il y a un très, très gros problème mondial aujourd'hui autour du complotisme. Et ça, effectivement, à part l'éducation, on voit pas très bien comment faire. Il y a en France un problème, à mon avis, qui tient à une judiciarisation un peu trop forte des propos, qui crée en fait une moralisation et qui empêche aussi souvent l'éducation en créant justement des sentiments de poids de mesure, qui empêche en réalité d'attraper ces jeunes là où on pourrait les attraper en faisant véritablement la pédagogie. Mais ça, c'est une autre question. Pour revenir sur la question des médias, je dirais que je trouve ça quand même un peu compliqué de juste parler des efforts formidables que les médias font pour trier le bon grain de livret. on l'a vu en France, on le voit particulièrement aux États-Unis, les médias sont aussi devenus des tribunaux. Alors là, je parle plus des affaires de Hulot, de Darmanin, mais même de manière générale, sur toutes ces affaires de Balance ton port, on se rend compte quand même que les procès maintenant sont des procès médiatiques. Et d'ailleurs, dans beaucoup de ces histoires-là maintenant, ce qui compte, c'est le moment où, en gros, il y a eu le procès médiatique. C'est-à-dire que la personne, son honneur a été sali. Et souvent, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ensuite quelle a été l'issue du procès judiciaire. Et donc là-dessus, il y a quand même une question à se poser.
S'il y a procès, d'ailleurs.
S'il y a procès, parce que parfois, il n'y a même pas procès.
Mais pardon, c'est pas nouveau.
Comment ? Non, c'est pas nouveau. Mais il y a un emballement qui est évident autour de Balance ton port et autour de Harvey Weinstein. Il y a eu un emballement parce que c'est pour parler de la République du soupçon. Pour dire qu'effectivement, il y a un soupçon qui est très fort qui tombe et que quand les médias s'en mêlent et quand ça monte en sauce, la réalité, c'est que ce qu'on perd, nous, et ce qui est fondamental dans une démocratie, c'est qu'on perd là-dedans l'importance aussi de notre système juridique. Et sans ce système-là, et si c'est pas le système juridique qui mène les affaires, mais si c'est les médias qui décident de qui a droit de vie ou de mort, ça devient un tout autre système politique.
Qu'en pensez-vous, Brice Couturier, ensuite Daniel Schneiderman?
Aujourd'hui encore, je cite les choses les plus récentes. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, vient de mettre en ligne un texte très intéressant sur le site Project Syndicate qui s'appelle How it threatens Democracy. Kofi Annan explique la chose suivante, qui veut dire comment ça menace la démocratie. Il explique la chose suivante. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris le pouvoir en réalité. Ils ont pris le pouvoir et il menace profondément la démocratie parce que des puissances étrangères, comme on sait, ou des idéologies subversives tentent d'infiltrer les démocraties et menacent la régularité des scrutins. On a vu comment la Russie est intervenue dans l'élection de Trump. On a vu aussi la Russie essayer d'intervenir dans nos élections nationales il n'y a pas si longtemps ici. C'est des problèmes graves. D'autant que, comme l'explique Kofi Annan, dans d'autres pays autoritaires ou totalitaires, il y a une conjonction entre l'État et ces réseaux sociaux qui se sont aplatis pour rentrer et gagner de l'argent et faire du profit dans ces pays. Or, les technologies, ce qu'explique Kofi Annan fort bien, c'est que les technologies de l'intelligence artificielle en particulier et les senseurs qu'il y a sur nos téléphones portables vont permettre à ces réseaux sociaux progressivement de savoir tout de nous. Et dans les pays autoritaire et totalitaire, savoir tout de nous, on sait ce que ça veut dire la Stasi. Que des sociétés privées comme Google et Facebook en position américaine et en position de monopole puissent avoir la totalité des informations nous concernant, soient capables de les vendre à des sociétés privées, mais aussi, et des publicitaires, mais aussi à des États, est profondément préoccupant.
Il y a un livre de Denis Olivian qui sort sur le sujet qui est vraiment excellent, sur la transparence.
Daniel Schneiderman.
Alors, je vais encore faire Monsieur en mélange tout. Darmanin, Hulot. Je pense que là encore, on ne peut pas mettre les deux affaires dans le même sac, même du point de vue du traitement médiatique. Darmanin, à l'origine, ça sort dans Le Monde. On a une longue enquête dans Le Monde qui résume avec beaucoup de précision le contenu de la plainte de cette femme contre...
Avec des révélations de SMS,
etc. Contre Gérald Darmanin. On voit parfaitement comment les choses se sont passées. Enfin, en tout cas, selon le récit que fait la plaignante. Et à l'arrivée, le lecteur se fait son idée. C'est-à-dire que le lecteur, en tout cas, une image extrêmement fidèle des faits tels qu'ils sont racontés par la plaignante, et le lecteur se fait son idée. Est-ce qu'il y a eu viol? Est-ce qu'il n'y a pas eu viol? Est-ce qu'il y a eu surprise? Est-ce qu'il n'y a pas eu surprise? Est-ce qu'il y a eu contrainte? Est-ce qu'il n'y a pas eu contrainte? Hulot Hebdo, on est dans tout à fait autre chose. On est dans un hebdomadaire qui fait sa couverture, l'affaire Hulot, qui fait 6 pages. On les lit. Et il n'y a pas la moindre allusion au contenu précis des faits allégués par la plaignante à l'égard de Nicolas Hulot. On ne sait ni quand, ni quoi, ni... ni qui. Enfin, on le saura le lendemain, qui. Mais voilà. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, on dit les médias deviennent des tribunaux, etc. Non,
la plaignante ne voulait pas.
Et le directeur de l'Hebdo prend ses distances avec l'article. Vous avez vu, Thierry Mandon dit qu'il n'aurait pas voulu que l'Hebdo publie un tel article.
À ce moment-là, on ne publie pas. Je veux dire, alors Dieu sait que, je veux dire, c'est pas moi qui vais défendre les médias. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas dit c'est formidable les médias. J'ai dit, voilà en quoi devrait consister leur boulot. Bon, eh ben, ça consiste à faire des enquêtes. Mais à ce moment-là, quand on fait des enquêtes, on fait des vraies enquêtes. On raconte les faits. On essaye de raconter le plus de faits possible. On donne les éléments au lecteur pour se faire son opinion par lui-même de ce qui reprochait à la personnalité mise en cause et faire le boulot correctement. C'est ça. Et ça a été le cas du Monde, dans l'occurrence, et ça n'a pas été le cas d'Hebdo.
Et oui, comment est-ce que vous expliquez qu'Hebdo est quand même publié, malgré tout, malgré toutes ces réserves dont ils ont forcément conscience? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de pression à devoir, évidemment?
Pourquoi ils sont publiés? Non, mais vous posez sérieusement la question. C'est un jeune Hebdo qui a besoin de se faire sa place dans les kiosques, qui a besoin d'exister, qui a besoin de se faire un titre. Donc, il se vante sur la promesse de on va faire du journalisme différemment, etc. C'est formidable. Dès la troisième semaine, ils mettent le clitoris en couverture. Très bien. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils avaient promis à leurs lecteurs. Et à la cinquième semaine, ils mettent la férule.
Totalement d'accord avec ça, parce que
s'agissant du clitoris, il faut savoir que c'en est un d'ailleurs
la plainte 2008, elle existe. Il y a une plainte.
Mais personne ne la connaît. Personne ne l'a lu.
Laissez-moi terminer.
Ils l'ont même pas lu eux-mêmes.
Ouais, laissez-la terminer parce qu'il va falloir aussi qu'on termine.
La plainte a existé. Le sujet, c'est autour, est-ce qu'il y a eu consentement ou pas? Et c'est exactement le communiqué du parquet de Saint-Malo. Il dit, on n'a pas su s'il y avait consentement ou pas. Et donc, l'affaire est classée.
Non. Si. Le parquet de 2008 dit, les faits ne sont pas constitués.
L'avocat de Nicolas Hulot qui ensuite a appelé BFM TV, oui. J'ai absolument suivi l'affaire, et moi a aussi. Révélé un courrier du procureur adressé à Nicolas Hulot, mais dans le communiqué du parquet,
de 2017.
Il n'est absolument pas
dit
que
les faits sont prescrits par ailleurs.
Les deux procureurs n'ont pas dit la même chose. Le procureur de l'époque a dit les faits ne sont pas constitués.
Non, merci. C'était un courrier qu'il a envoyé directement à Nicolas. Bah oui.
Les faits sont prescrits, les amis. Même s'il est coupable, il ne le sera plus jamais.
Quelle émission tonique et vivante ce soir. Nassir El Mouadem, Daniel Schneiderman, Anastasia Colosimo et Brice Couturier. Merci à tous les quatre. Cette émission, vous pourrez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur franceculture.fr.